Chapitre 66. À minuit, la baie de Loti n'était plus qu'un infernal puits d'encre. On entendait l'eau circuler, se faufiler dans un bruissement subtil de pierres qu'on frotte. Où que vous soyez au milieu de cette gigantesque étendue de sable, la marée pouvait vous encercler en une poignée de minutes, et les courants vous agripper pour ensuite vous entraîner vers le large, vous épuiser, vous noyer. Depuis la jetée où Caleb Traskman s'était tué d'une balle dans la tête 3 ans plus tôt, Paul observait en direction de la côte, téléphone vissé à l'oreille. À chaque rotation, l'œil inquisiteur du phare dressait un rapide portrait robot des environs. De ce point de vue, en plein jour, on devait apercevoir la maison de l'écrivain, protégée par ses dunes. Un havre de paix, se disaient sûrement les promeneurs venus prendre un bol d'air. L'eau, le calme, la nature. Comment se figurer un seul instant les horreurs qui s'y étaient sans doute déroulées? Comment imaginer à quel point le romancier avait sombré dans la noirceur la plus absolue, errant dans son labyrinthe comme le monstre mythologique? Je te réveille?
Non, pas, ça va.
Ne me dis pas que t'es encore au bureau.
Si, pas envie de dormir, pas envie de rentrer. Je suis bien ici.
Paul s'assit sur un rocher avec un soupir. Il perçut le rugissement grave d'un phoque, une longue plainte dans la nuit. Lorsqu'il s'était installé à l'hôtel Neptune, face à la digue, on lui avait expliqué qu'une colonie de plus d'une cinquantaine d'individus s'était établie sur les bancs de sable de la baie. Ils étaient, paraît-il, plus nombreux, environ 400 en baie de Somme, à quelques kilomètres d'ici à vol d'oiseau.
« Comment tu te sens ?»«
On fait aller. Brunet est allé à l'autopsie. Les analyses toxicaux n'ont rien révélé, hormis la présence d'antidépresseurs. » D'après son médecin traitant, David était sous diazépam depuis des années. Il ne m'en a pas parlé, je ne l'ai pas vu. Les employés non plus n'avaient rien remarqué qui puisse indiquer un passage à l'acte. Il avait l'air tellement... normal.
La normalité, songea Paul. Peut-être pire encore que la folie. Au moins la folie, elle se voyait.
Martini doit te contacter demain. Mais on va classer ça en suicide, ajouta Louise.
Paul ferma les paupières. Ça lui faisait du bien de l'entendre.
D'accord.
Louise se déplaçait. Paul devina qu'elle se faisait une tisane dans la petite cuisine.
En ce qui concerne l'album de photos morbides, aucun des salariés interrogés n'a noté de comportement étrange de la part de David,
continua-t-elle.
Et pour le moment, nos techniciens n'ont rien, ni sur son ordinateur, ni sur son téléphone. Il a peut-être effacé les preuves proprement et...
Elles viennent du domicile de Caleb Traskman.
David jouait sur les deux fronts. Il envoyait aussi des lettres de menace à l'écrivain.
C'est pas vrai.
Après la mort de Traskman, il est venu visiter sa maison, si on peut appeler ça comme ça. Peut-être pour chercher des traces de Julie, je n'en sais rien. Mais ces clichés, il les a dérobés en même temps que les dernières pages du manuscrit inachevé. J'ai découvert d'autres choses. Le juge Cassoret est déjà au courant. Il va solliciter le juge du coin, qui lui-même sollicitera le commissariat de Berck-sur-Mer pour une cosaisine. Les équipes d'ici connaissent Traskman. Elles ont travaillé sur son suicide. D'ici un jour ou deux, ils perquisitionneront sa baraque et feront des relevés de traces. Ça vous évitera de vous coltiner la route.
Qu'est-ce que tu as trouvé ?
Paul hésita. Une bourrasque le poussa à enfoncer son nez dans son col. Il avait froid, mais il aimait cette odeur de sel et d'algues.
Dis-moi, papa.
Une pièce cachée où le romancier a probablement enfermé Julie pendant des mois, voire des années. Dans le silence qui suivit, il perçut très nettement la tristesse et la culpabilité de sa fille. Il frotta le coin de son œil. Le vent glacé chargé d'embrun lui arrachait des larmes. Il se releva et reprit sa marche vers le centre nautique. Tout était noir, sans vie, si bien qu'il lui sembla qu'il évoluait sur un fil tendu au-dessus d'un précipice.
« Écoute, Louise, ce que je t'ai dit en sortant de chez toi l'autre fois, je ne le pensais pas, j'étais juste en colère. »«
Non, c'est toi qui avais raison. Si je ne m'étais pas tué à l'époque, vous seriez remonté jusqu'à Traskman et vous auriez retrouvé Julie. Peut-être qu'elle serait là, à mes côtés, et que...
c'est du passé. On ne pourra pas revenir en arrière. »
David aussi, il aurait pu parler, il était au courant de tout, mais il a préféré assouvir sa vengeance.
Toi, tu avais peur.
Accepte mes excuses, pardonne au père que j'ai été pendant toutes ces années. Si dur, si distant.
Je vais tout faire pour que ça s'arrange, avec toi, avec Corinne. On a la chance d'être ensemble, en bonne santé. Qu'y a-t-il de plus important ?
Il ne se serait jamais mis à nu comme ça, en face, il le savait. C'était comme marqué « Je t'aime » dans les SMS envoyés à Corinne sans le lui dire de vive voix.
Même par téléphone, juste avant de passer ce coup de fil à Louise, il n'avait pas réussi à prononcer ces mots. Il se sentait petit, minable.
« Rien n'est plus important », confirma simplement Louise. « Faut que je te laisse maintenant. La batterie de mon téléphone va lâcher et j'ai oublié mon chargeur. On se tient au courant. À demain, d'accord ?
À demain. » Il raccrocha en soupirant. Encore un prétexte de Louise pour abréger la conversation. Il enchaîna sur le numéro de Gabriel. De nouveau la boîte vocale. Pourquoi ne répondait-il pas, bon sang ? Il ne laissa aucun message et regagna la digue. Un court passage du manuscrit inachevé lui trottait en tête, alors qu'il était seul au monde, lui l'homme qui boitait sous les oasis orangées des lampadaires. Les vagues fatiguées blanchissaient à peine en contrebas de la digue. Berk coulait comme une baleine morte vers les abysses.
Paul composa le code d'entrée de l'hôtel, traversa le hall vide et se demanda qui venait dormir dans un endroit pareil au mois de novembre.
Des gens comme moi, des déracinés ou des proches des patients des hôpitaux.
Après tout, des voyageurs venaient bien remplir l'hôtel de Saga, alors pourquoi pas celui de Berk ? Il monta directement dans sa chambre avec vue sur la mer. Mais ça aurait pu être une décharge publique que ça n'aurait rien changé. Pas un scintillement, pas le moindre reflet suggérant une étendue d'eau. On n'y voyait qu'un interminable désert d'obscurité.
Après la visite de la maison labyrinthe, Paul avait été incapable de manger, mais désormais la faim le rappelait à l'ordre. Il piocha toutes les cochonneries du minibar, cacahuètes, Toblerone, et les dévora à même le lit. Chips l'après-midi, chips le soir, le régime des gens pressés. Dans un rire nerveux, il se décapsula une bière qu'il leva à la santé du mur blanc en face de lui.
« Au déraciné !»
Plus sérieusement, il entama des recherches sur Google à l'aide de son ordinateur portable. Il tapa les mots-clés « photographe »,« art contemporain »,« lilliputien »,« trompe »,« éléphant ». Se rendit dans la galerie d'images et ne tarda pas à trouver le petit homme au chapeau haute forme vu plus tôt dans la soirée. D'autres photos s'étaient affichées d'elles-mêmes. Il reconnut notamment celle du fakir et du chien pendu. Il cliqua sur cette dernière et de lien en lien atterrit sur un article de blog. Les clichés étaient extraits d'un livre intitulé « Révélation », publié en 2012, dont la critique était élogieuse. L'ouvrage regroupait une partie du travail d'un certain Andrea Habergel. Selon l'auteur, Andrea Habergel faisait partie des photographes contemporains transgressifs, des artistes intéressés par tout ce qui choquait et allait à l'encontre de la morale. Ils immortalisaient le sexe, la maladie, la normalité, bafouaient la religion, les interdits, puis les offraient en pâture au grand public. La page web n'en disait pas davantage, mais Paul se savait sur la bonne voie. Les photos issues du livre étaient choquantes, provocantes, tout autant que les titres. Christ Peace, par exemple, représentait un crucifix immergé dans un verre d'urine et était censé jeter l'opprobre sur le business juteux de l'Église catholique. Ces analyses à deux balles échappaient à Paul. Tout ce qu'il voyait, lui, c'était un verre de pisse avec un crucifix en plastique dedans. Il retourna dans le moteur de recherche et tapa Andrea Habergel. L'artiste avait son propre site et une fiche Wikipédia bien fournie. Né en 1967 à Rouen. Visage disproportionné au front de buffle, la paupière gauche décollée d'un œil rond semblable à du verre, le nez écrasé comme un groin. L'image même de la laideur. L'homme ne mesurait pas plus d'1,60 m. Il avait vécu à New York, Londres, Berlin, puis Paris. Réputé, ses clichés s'exposaient partout à travers le monde et les originaux signés se vendaient cher. D'après sa biographie, Andrea avait appris à 10 ans que son grand-père, Yoram Habergel, avait été un survivant d'Auschwitz. Il avait fait partie du Sonderkommando, le commando du crématoire composé de détenus obligés de gérer à main nue l'extermination de masse. Des juifs qui enfermaient d'autres juifs dans les fours. Des porteurs de secrets, sans contact avec les autres prisonniers. Yoram avait réussi à prendre 5 photographies de l'abord des chambres à gaz, à les cacher et à les sortir du camp lors de sa libération.
Le jeune Andrea Abergel avait découvert ses souvenirs de l'horreur la plus absolue. Derrière, son grand-père avait écrit « Je pourrais me jeter sur les fils électriques comme tant de mes camarades, mais je veux vivre. » Ou encore « Dans notre travail, si on ne devient pas fou le premier jour, on s'habitue. » On dit que ce moment marqua Andrea Abergel au fer rouge, qu'il éprouva l'atrocité humaine à travers une sorte d'héritage spirituel, le traumatisme des milliers de victimes de la Shoah. Son art lui permettait alors de projeter dans le monde une profonde souffrance intérieure. Paul alla ensuite fouiner du côté des séries, collections, exhibitions, accessibles par un onglet dédié. La liste n'en finissait pas. Histoire de la violence, 1986. Brûlure d'église, 1988-1990. Profondeur, 1992. Déformation, 1994. Erreurs humaines, 1995-1996. À même pas 30 ans, Andrea Abergel avait capté la monstruosité des corps blessés, torturés, heurtés par les malformations ou les erreurs génétiques. Il figeait l'abject avec une violence scandaleuse. Il voulait choquer les observateurs, leur faire mal, les arracher à leur petite vie bien normée en leur crachant tout ça à la figure. Ces choses-là existaient, constituaient le réel. Il fallait les montrer. À plusieurs reprises dans les interviews, il évoquait l'œuvre d'art la plus transgressive, la plus ultime de toutes, qu'il aimerait un jour créer comme l'incontournable conclusion de son travail, immortaliser sa propre mort devant un public. Attraper ce moment incroyable où les chairs se disloquent, les organes défaillent, l'air ne gonfle plus les poumons. L'artiste prétendait réfléchir sérieusement à l'idée. Un lien menait d'ailleurs déjà à un site, relié à une webcam qui filmait un mur et un sol recouverts de toile blanche. Un endroit gardé secret où il comptait réaliser son ultime œuvre. Quand Paul cliqua sur ce lien, il constata grâce à un compteur intégré qu'une centaine de personnes y étaient connectées au même moment que lui. Elles attendaient patiemment la mise à mort en direct du photographe. L'œuvre d'art ultime. Ce monde de folie le dépassait. Il revint aux photos. Les visages des modèles étaient exposés, les gens posaient, regards graves et sombres, l'ampleur de leur colère renforcée par le noir et blanc de la prise de vue. Chaque série comportait, d'après les descriptions, plusieurs dizaines d'éléments, mais pour découvrir l'ensemble des créations, il fallait acheter les livres ou se rendre aux expositions. Des listes d'endroits avec des dates étaient disponibles. Le gendarme avala une poignée de cacahuètes, se passa la langue sur les lèvres et continua son exploration. Immersion, 1999. Tenebra Lux, 2001. Jérusalem, 2003. Il arrêta de mâcher lorsqu'il vit apparaître plus loin encore Morgue, 2010-2016. Il lâcha le paquet de cacahuètes fébrile et lança le chargement. Seulement deux photos présentaient la collection. De vieilles mains d'hommes, violacées, posées l'une sur l'autre au niveau de l'abdomen, les ongles un peu longs et un crucifix glissé entre les doigts recroquevillés. On voyait le sexe mort, rabattu sur les bourses couleur de mur. Juste en dessous, une cheville gonflée, visqueuse. Des serpents d'infimes veines noirâtres affleuraient tel un réseau de neurones. Paul reconnut les caractéristiques d'un noyé. Et toujours ces voilures bleutées et les aciers clairs des tables sur lesquelles les corps étaient allongés. Paul s'empara de son téléphone et afficha quelques pages de l'album d'Esquimet. Il ne dénicha pas ces clichés-là précisément, mais tout néophyte qu'il était, il sentait la patte de l'auteur dans le cadrage, l'éclairage, la mise en scène. Subsistait-il le moindre doute quant au fait que ces photos avaient été imprimées à partir de la série Morgue d'Andrea Abergel ? Paul se sentait près du but. C'était comme un morceau d'objet que l'on découvre en creusant dans le sable. On gratte vite sur le côté et dessous pour voir de quoi il s'agit. Il revint sur la page web de la série, la respiration courte, et glana toutes les informations disponibles au sujet de Morgue. Dans un texte de présentation, Andrea Abergel disait s'être inspiré de Théodore Géricault et de la fascination que la mort pouvait représenter dans le romantisme du XIXe siècle. « J'utilise la photographie comme un peintre utilise sa toile. Les corps abandonnés sur les tables d'autopsie, pris dans le sommeil de la mort, ont une esthétique rare, quelque chose de précieux et d'éphémère qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a une beauté incroyable qui se dégage d'un cadavre. On devine toute la douleur en dedans, on la reconnaît à la crispation des doigts, à la courbure d'une lèvre, au poids de la paupière sur l'œil. J'aime voir les visiteurs s'arrêter devant mes œuvres. J'aime observer leurs visages se tordre face à ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et se dire « De quoi cet homme est-il décédé ? » Qu'est-ce qui a emporté cette femme dont seul un bout d'épaule s'est échappé de la draperie médico-légale ? La draperie médico-légale. Quelle connerie. Paul lut quelques articles et se focalisa sur celui où Abergel parlait de l'origine des photos. C'était ce qui l'intéressait par-dessus tout. Pour la série morgue, qui comprend plus de 300 photos, il a fallu trouver un professionnel qui accepte de m'ouvrir les portes de ces sanctuaires que sont les morgues ou les instituts médico-légaux. Cela n'a pas été chose aisée. Les corps sont porteurs de terribles tragédies et certains sont encore sous le coup de procédures judiciaires. Les légistes ne sont pas des gens qui aiment partager leurs secrets. Ils protègent leur territoire comme le loup sa tanière. Mais mon voyage au pays des morts a été possible grâce à un guide d'exception qui m'a accordé sa pleine confiance. L'anonymat des victimes a été préservé. Cette série, Travail de longue haleine, a été réalisée entre 2010 et 2016 dans un lieu unique, quelque part en France, dont je tairai évidemment le nom. Un lieu unique. Paul était surexcité. Identifier la morgue, c'était retrouver le lieu par lequel les cadavres avaient transité. Le légiste en question avait peut-être eu, à un moment donné, Mathilde dans l'un de ses tiroirs, et Abergel en avait fait une photographie sans savoir qui elle était. En tout cas, ce légiste anonyme devait être au courant de l'origine du corps à la marque de naissance en forme de tête de cheval. Tout cela était forcément tracé. Plus bas sur la page, il se pencha sur la liste interminable des établissements où la collection morgue avait été exposée. Malgré une grande controverse au début et une interdiction dans certains pays, les musées et les galeries d'art s'étaient arrachés l'artiste ces dernières années. Jack Chenman Gallery de New York, Huys Marseille d'Amsterdam, Galleria Alfonso Artiaco de Naples. Les visiteurs venus contempler l'œuvre d'Abergel se comptaient par dizaines de milliers. Le regard de Paul s'arrêta sur le palais de Tokyo à Paris, et surtout sur les dates. 19 octobre, 19 décembre 2020. Les photos étaient exposées en ce moment même dans le célèbre musée d'art contemporain. Paul n'en croyait pas ses yeux. Du vrai pain béni. Il allait pouvoir vérifier si la tache de naissance avait effectivement été photographiée par Abergel et, si tel était le cas, se débrouiller pour récupérer le nom du légiste. Il alla décapsuler une autre bière pour fêter sa petite victoire. Il connaissait sa prochaine étape. Son euphorie ne dura pourtant qu'un court instant. Il le savait d'avance, il n'y aurait que misère et désolation au bout du chemin. Il chercha de nouveau à joindre Gabriel, sans succès. Il était plus d'une heure du matin. Cette fois, il laissa un message. « Je suis à l'hôtel Neptune, à Berck-sur-Mer. Rappelle-moi, même à 3 heures du mat', ton silence commence sérieusement à m'inquiéter. »